Eh bien, j'ai pensé ce matin à quelques idées sur le psaume 16. C'est un psaume que nous avons, qui passe inaperçu dans la Bible quand nous lisons la Bible, mais tout le monde connaît le psaume 23. On connaît le psaume 1, on connaît le psaume 119. Mais le psaume 16, eh bien, est un psaume qui est moins connu. Et pourtant, c'est un psaume qui a une très très grande valeur. Bon, tous les psaumes ont une grande valeur, toute la parole de Dieu a une grande valeur. Mais le psaume 16, nous parle de qui est Dieu pour nous. Et c'est vrai que nous avons besoin d'apprendre qui est Dieu. Alors nous allons le lire. Psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous les yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Alors quand on lit ce psaume, et en effet on trouve beaucoup de pensées très élevées, et très sublimes, des choses qui nous rappellent la grandeur de Dieu. Nous, nous sommes de petits humains et nous avons tellement besoin de la présence de Dieu. C'est le David, le roi d'Israël, avait mené une vie difficile. C'est à partir du moment où il avait été oint par le prophète pour être le prochain roi d'Israël, eh bien, les difficultés ont commencé pour lui. Et jusque tard dans sa vie, eh bien, c'était un homme traqué, un homme poursuivi. Un homme qui avait de graves problèmes. Même s'il a été le roi, même s'il a eu de grandes victoires, néanmoins, il y a au moins trois périodes de sa vie où il était en fuite. Et malheureusement, c'est le lot de beaucoup de personnes d'être sur un terrain parfois de difficulté. Et nous sommes, si j'interrogeais chacun d'entre vous en particulier ce matin, je demandais, est-ce que vous avez des problèmes? Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui me dirait, je n'en ai pas. Tout le monde a un problème. Qu'il soit grand, qu'il soit petit, eh bien, il y a un problème quand même. Et nous avons besoin d'apprendre qu'au-dessus de nos problèmes, il y a Dieu. C'est notre vue humaine, notre vue courte, qui nous fait regarder les problèmes comme des montagnes. Nous avons autre chose que des montagnes dans nos vies. Nous avons le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu éternel, le Dieu vivant. Dans les moments difficiles, souvent des personnes me prennent pour conseiller. Je passe des heures au téléphone par semaine, donc il m'est arrivé de totaliser 5 heures dans une matinée. Donc ça commence tôt la matinée, hein. C'est des coups de téléphone d'une heure et demie, 2 heures, 3 heures. Donc, mais une chose que je demande toujours, est-ce que vous rendez grâce à Dieu? Est-ce que vous rendez grâce à Dieu? Le problème souvent, c'est de rendre grâce à Dieu. Beaucoup de chrétiens prennent les choses qui arrivent dans leur vie comme un dû. Tout va bien, tout est parfait, c'est normal. Et quand il y a un problème, on dit, mais Seigneur, pourquoi moi? Mais quand tout va bien, pourquoi vous ne diriez pas, pourquoi moi? C'est quand tout va mal que l'on dit pourquoi moi. Mais c'est encore sur moi que ça arrive. Je vous le dis parce que c'est des paroles que je retrouve dans ma bouche et dans mon cœur et dans mes pensées. Donc je sais très bien que nous sommes tous pareils et que ces choses-là, elles reviennent. Et souvent, je dois m'humilier et je dis Seigneur, mais je murmure. Je ne me souviens pas de tes grâces. Je ne me souviens pas que tu es le Dieu fidèle, que tu es le Dieu éternel, que tu es bon, que tu es merveilleux. Et c'est notre dureté, notre égoïsme, notre recherche de nos intérêts, eh bien, sont nos pires ennemis. C'est Dieu est toujours avec nous, toujours. Et il ne se lasse pas avec nous. Et il poursuit jour après jour, instant après instant. Et il fait des choses merveilleuses, des choses plus grandes que vous pouvez imaginer ou penser. C'est donc le premier verset, c'est Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. C'est la première réaction. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu est notre refuge. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. C'est vers lui que nous allons trouver un refuge. Et malheureusement, il y a des personnes qui me disent, eh bien, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. J'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas répondu. Et on a essayé, la porte est fermée. On essaye une autre porte, elle est fermée. On essaye une autre porte, elle est fermée. Bon, alors je vais m'adresser à Dieu. C'est comme en dernier recours, comme si vraiment c'était la solution, roue de secours. Il y a une roue qui est crevée, on va chercher la roue de secours. Malheureusement, beaucoup sont comme ça. Nous allons chercher refuge en Dieu à la dernière extrémité. C'est la dernière personne que nous allons voir. Alors que normalement, ça devrait être la première. C'est vers lui que nous devons aller. Notre réaction, c'est d'aller à Dieu. Je me rappelle, il y a des années de cela. J'étais un tout jeune pasteur et je m'occupais d'enfants, de cas sociaux. C'était dans un orphelinat et il y avait des jeunes filles. Les jeunes filles elles avaient quelque chose comme 3-4 ans de moins que moi. C'était vraiment. Mais je m'occupais des garçons. C'était les garçons, il y en avait deux qui avaient 5 ans de moins que moi. Donc ils auraient pu franchement être mes frères et sœurs. Mais on a mené les jeunes filles à voir des films. Et c'était des films connaissance du monde, des journalistes qui revenaient d'avoir fait un tour dans un coin du monde et ils revenaient avec de belles prises de vue. Et le journaliste faisait le commentaire, un commentaire oral. Ce n'était pas le film était muet sans eux. Et donc on allait voir cela. C'était très très intéressant. Et après, il y avait le retour. Et il y avait 4 km à pied. Et on passait devant une caserne. Et alors, il y avait des soldats qui souvent étaient sur le trottoir. Et alors, un jour, on était passé comme ça, et j'ai entendu des souliers ferrés qui nous suivaient. Alors, j'ai dit aux jeunes filles, bon, on se dépêche, hein, on ne va pas traîner. Et alors, elles ont accéléré le pas, moi aussi. Et puis, derrière, les souliers ferrés accéléraient le pas. Alors, j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu interviennes. Parce que dans quelques minutes, il va y avoir des problèmes. Et à ce moment-là, une voiture est arrivée, elle s'est garée. Et quelqu'un m'a dit, Eh, monsieur le pasteur! Et c'est une grande voiture. On a fait rentrer tout le monde et on est parti. Cette personne, je l'ai rencontrée qu'une fois dans ma vie. Il m'a pris en voiture, la deuxième fois que j'ai rencontré, et je n'ai plus jamais revu. Je peux vous dire. Dans une situation comme cela, on peut essayer toutes les serrures, mais il faut tomber sur la bonne tout de suite. Et on va chercher Dieu tout de suite. Parce que la nuit, une heure tardive, et puis le long d'une grande muraille qui longe une caserne, et avoir des gens qui derrière, et les jeunes filles n'étaient pas très très nettes non plus. Il fallait que Dieu intervienne tout de suite. Et je peux dire, c'était une délivrance. Dieu a délivré. Je peux dire qu'il y a un ange qui est sous forme humaine qui est venu garer sa voiture. Mais c'est Dieu est pour nous un refuge. Un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Malheureusement, c'est que n'est que dans des situations de ce genre que l'on ne se trompe pas de porte, que l'on frappe à la bonne porte. Mais quand on a du temps, quand nous avons plusieurs perspectives, plusieurs possibilités d'être délivrés, alors nous choisissons une perspective, une autre, une chose, une autre. Et puis et ça marche, ça ne marche pas, ou ça marche mal. Et puis finalement, on se dit, ben, je vais demander à Dieu. Malheureusement, on ne prend pas facilement Dieu pour refuge. Et ça, c'est un grand drame dans notre vie chrétienne. Dieu devrait être le confident de notre vie. Nous devrions pouvoir lui parler de tout. Je peux dire que je suis un père heureux parce que j'ai été le confident de mes enfants. Si jamais ils avaient un problème, ils venaient me voir. Il y avait un tel climat de confiance entre mes enfants et moi que ils pouvaient venir me voir, ils ne me dérangeaient jamais. Et même, je peux dire qu'il y a des personnes qui me téléphonent et qui ne me dérangent jamais. Parce que j'ai ce privilège, les gens me prennent pour confident. Mais c'est Dieu, en premier lieu, qui doit être notre confident. C'est vers lui que nous devons nous tourner, vers lui que nous trouvons la solution. C'est à lui que nous faisons appel. Nous adressons des prières à Dieu. Et je me rappelle, je parlais avec une dame qui me disait, oui, mais dans cette situation, il faut faire marcher les hommes politiques. Je dis, je n'ai pas cette habitude-là. Notre habitude, nous, ce n'est pas à faire agir les hommes politiques, c'est d'aller vers Dieu. Et Dieu, eh bien, il est le Tout-Puissant et il est capable de résoudre des problèmes autrement plus grands que les problèmes que peuvent résoudre des hommes politiques ou les hommes les mieux placés qu'il y a sur cette terre. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Et si vous lisez les psaumes, vous verrez le nombre de fois où il est question, ce n'est pas dans l'homme que je me confie. Qui es-tu pour te confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle? Ce n'est pas dans les psaumes, c'est dans le prophète Jérémie. Qui es-tu pour te confier dans l'homme? Il n'a qu'un souffle dans ses lèvres, dans ses narines. Ce n'est qu'un homme, rien qu'un être humain. Même s'il est haut placé, même s'il est puissant, même s'il est riche, ça ne changera jamais le fait que c'est un être humain. Oh, on vous dit, oui, mais il a le bras long. Pas plus long que celui de Dieu. Il y a un verset qui dit, ce qui met un obstacle entre Dieu et vous, c'est vos péchés. Alors souvent, on va chercher les hommes, non pas parce que nous avons pas envie de chercher Dieu, mais c'est parce que nous n'avons pas envie de tout mettre en règle devant Dieu, alors nous allons chercher l'homme. Parce que lui, tout va bien. Mais si nous allons chercher Dieu, il faut d'abord mettre sa vie en règle. D'abord être dans la lumière. Laisser Dieu éclairer notre vie. S'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, les mettre en règle. Et à partir de là, eh bien, on peut attendre de Dieu quelque chose. Mais comme nous n'avons pas envie de mettre notre vie en règle, alors on va chercher les hommes. Et on a trouvé qu'un tel, il a le bras long, un tel, il est en relation avec un tel. Mais nous ne sommes que des humains et nous faisons appel qu'à des humains. Devons faire appel à Dieu. C'est Dieu notre refuge. Hors de Dieu, il n'y a pas de refuge. Hors de Dieu, il n'y a pas de sécurité. C'est en Dieu seul que se trouve notre salut. Ça, c'est Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Ça, c'est un autre aspect. On va chercher les hommes parce qu'on ne veut pas que Dieu soit Seigneur de notre vie. Parce que si on prie vraiment Pas les petites prières que nous avons l'habitude. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, conduis les choses, fais ceci, fais ça. Et puis voilà, j'ai prié ce matin, j'essaierai de prier ce soir, quand on prie le matin et le soir. Et on a fait des prières qui sont des lieux communs. Mais la réalité, nous sommes passés à côté de la réalité. La prière, nous nous approchons de Dieu, qui est au-dessus de toutes choses. Nous nous humilions devant Dieu, nous prions Dieu, nous cherchons Dieu. Ce n'est pas, nous ne sommes pas face à face avec un être humain, nous sommes face à Dieu. Et là, il y a un problème dans notre vie souvent. Parce que comme nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu, nous ne voulons pas mettre notre vie en règle, nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu, alors nous préférons toutes les autres solutions plutôt que la bonne, c'est-à-dire mettre notre vie en règle et la seigneurie de Dieu. Et donc je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Ça, c'est là une chose précieuse. Recherchez à ce que Dieu soit souverain dans votre vie, qu'il soit le Seigneur de votre vie. Et ça, c'est une découverte extraordinaire dans votre vie. Quand vous acceptez que Jésus-Christ soit Seigneur de votre vie, que ce soit lui qui ait autorité dans votre vie, lui qui soit le roi de votre vie, qui soit sur le trône de votre vie. Je me rappelle d'une petite image, elle m'a beaucoup parlé, beaucoup enseigné, je l'ai toujours en tête. C'est un cœur avec un trône. Alors si moi je suis sur le trône, il n'y a plus rien qui va. Mais si c'est Jésus qui est sur le trône, alors les choses vont bien. Et il faut que d'une manière consciente, on mette Dieu sur le trône de notre vie. C'est lui qui est mon maître, c'est lui qui est mon seigneur, c'est lui qui dirige ma vie. Ma vie ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma chose. Je ne dispose pas de mon temps, de ma personne, comme je veux. Seigneur, que ta volonté se fasse et pas la mienne. Tes plans à toi. Et c'est comme cela que les choses peuvent se faire. Et souvent, nous disons, mais mes prières sont sans réponse. J'ai prié Dieu pour telle et telle chose. J'ai demandé à Dieu, oui, mais est-ce que vous avez demandé à Dieu comme Dieu ou est-ce que vous l'avez demandé à Dieu comme vous demandez à un serviteur? Toute la différence est là. C'est, nous ne nous adressons pas forcément à Dieu comme s'il était Dieu. Nous lui avons demandé, Seigneur, fais ceci, fais ça. Et je me rappelle un prédicateur qui, bon, ce n'est pas les églises qu'on fréquente, mais il priait et il dit, eh, Seigneur, tu feras et tu nous diras et tu conduiras. Et il dit, il faut avoir de l'autorité sur Dieu. Ouh, ça, c'est des blasphèmes. Ce sont des blasphèmes. Nous nous approchons de Dieu. C'est du Dieu vivant. Il y a un mot que nous ne connaissons pas et que nous connaissons mal, c'est le mot crainte, la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire le respect de Dieu. Dieu, il est Dieu. Vous allez dire, c'est une évidence. Mais nous ne sommes que des humains et nous nous adressons à Dieu, nous nous adressons au souverain de l'univers, à celui qui a créé toutes choses. Chaque grain de poussière est créé par Dieu, comme l'infini des étoiles, comme toutes les galaxies. Tout cela est fait par la main de Dieu, par la parole de Dieu. Tout a été fait à un moment ou à un autre par Dieu. C'est tout ce qui existe est l'œuvre de Dieu. Et nous nous adressons à Dieu avec un manque de respect. Il est le Seigneur. Il est celui qui règne et il doit régner sur notre vie. Et nous devons accepter ce règne dans notre vie. Après, Dieu peut exaucer les prières. Après, Dieu peut agir. Après, Dieu peut faire beaucoup de choses. Mais tant que Dieu n'est pas le souverain de notre vie, eh bien, nous appelons quand nous avons besoin et nous l'oublions le reste du temps. Il y a des personnes qui prient vraiment des prières. On se dit, mais si elle priait tout le temps comme ça, vraiment, ce serait merveilleux. Oui, mais c'est juste parce qu'ils ont un problème. S'il n'avait pas de problème, eh bien, il ne prierait même pas ou il ne penserait même pas à prier. Il y a Dieu. Et il est le Dieu vivant. Et il est nécessaire de prier Dieu. Parce qu'il est Dieu et parce que nous sommes des humains. Même si nous n'avons pas un besoin urgent de quelque chose, néanmoins, il est nécessaire de s'être rapproché de Dieu et de lui avoir remis notre vie entre les mains et de dire: Seigneur, ta volonté, dirige toutes choses selon tes plans, selon ta volonté. Je ne suis qu'un petit humain et j'ai besoin de toute ta force. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin que tu conduises. J'ai besoin que tu m'amènes près de toi. J'ai besoin que tu m'utilises dans chaque instant de ma vie, à chaque moment, que je puisse être un bon témoignage, que je puisse parler avec des personnes, que je puisse, etc. Nous avons besoin de mettre notre vie à la disposition de Dieu. Le problème, c'est que nous voulons vivre notre petite vie tranquille pour nous-mêmes, selon nos plans, selon nos préjugés, tout ce que nous avons en tête. Et voilà, nous sommes bien décidés à faire comme nous avons choisi. Alors, eh bien, nous nous adressons, quand nous avons des problèmes, aux humains et pas à Dieu. Parce que il faudrait mettre trop de choses en règle. Et du moins, nous imaginons qu'il y a trop à mettre en règle. Mais la suite du psaume est intéressante parce que quand quelqu'un a accepté que Jésus soit le souverain bien, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, soit celui qui domine, alors le verset 5, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Alors, nous avons l'habitude, quand nous pensons à cela, de dire: eh bien, je ferai plus ça, j'irai plus là, j'aurai plus ça, et plus ça, et plus ça. C'est si vous voulez mettre votre vie entre les mains de Dieu, Satan va instantanément vous dire: oui, mais tu sais ça, ah, c'est fini. Ah, ma, ça, plus jamais. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis, on se dit: non, tout ça, j'y tiens, et je mettrai ma vie sous la direction de Dieu plus tard, parce que j'ai trop à perdre. Mais imaginons que toutes ces choses-là, vous les perdiez. Mais vous avez gagné Dieu. Vous avez gagné sa présence. Est-ce que vous savez ce que c'est que la présence de Dieu? Un cœur qui est rempli de la présence de Dieu. Et vous êtes en communion profonde et intime avec Dieu. C'est un bien extraordinaire, c'est un souverain bien. Il dit: un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je suis comblé par Dieu. Et je peux dire une chose: même si tout manquait et que nous avions la présence de Dieu dans notre vie, eh bien nous serions les plus heureux qu'il y ait sur la terre. Je me suis fait cette réflexion souvent. Et j'en parlais avec notre frère Bernard il n'y a pas longtemps. Nous sommes plus heureux aujourd'hui que nos ancêtres? Pas vraiment. Est-ce que nos ancêtres étaient plus heureux que nous? Pas vraiment. Nous avons plus de choses qu'eux, ça ne nous rend pas plus heureux. Eux avaient moins de choses que nous, ça ne les rendait pas moins heureux que nous ou plus heureux. Le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons. C'est que nous avons ou que nous n'avons pas. Il y a des gens qui se disent: oui, mais moi, il me faut un coin de la Lozère. Je vais là, je suis seul avec mes moutons. Je connais des gens qui ont fait ça dans les années 70. La Lozère, c'était tout le monde allait dans ce coin-là, et même il y avait le Larzac et tout. C'était vraiment, on voulait le bonheur, la vie industrielle et tout ça. On voulait vivre une vie authentique, une vie attachée à la terre et à l'instant présent, vraiment. Tandis que les gens qui sont à Paris et qui sautent d'un métro dans un autre et qui vont au travail et qui repartent et qui ne voient pas la vie passer, on voulait prendre le temps de vivre. Est-ce qu'ils étaient plus heureux? Mais non. Les Parisiens ne sont pas plus heureux que les provinciaux ne sont pas plus heureux que les Parisiens. Ce qui fait le bonheur, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Et si vous laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie, alors vous êtes heureux, vraiment heureux. Et c'est un bonheur que personne ne peut vous enlever. Je me rappelle de cette histoire. Bon, c'est pas, c'est de l'histoire. C'est Jérôme de Prague se trouvait un jour. Bon, l'histoire, ce n'est pas le beau côté de l'histoire. On lui avait donné un sauf-conduit qui devait le garder en sécurité. Et quand il est arrivé, il a été mis en prison. Alors, instantanément, il est resté en prison. Prison, hein, c'était vraiment visité par les rats, avec peu à manger et dans des choses innommables. Il était vraiment dans une oubliette. Et le mot est. Il y a bien pire que ça. Donc, cet homme était dans un endroit le pire qui puisse exister sur la terre. C'est bon, il y a pire, mais il était dans un des pires. Et au bout de 3 mois, on l'a sorti de prison pour que se défendre devant un tribunal de gens qui avaient, eux, une vie tranquille, une vie paisible, qui avaient. Et au tribunal, on l'a interrogé sur sa foi, sur ce qu'il croyait, sur ce qui est, etc., etc. Et les gens étaient stupéfaits. Que de ses réponses, de la clarté des réponses. C'est un évêque parmi ceux qu'il a interrogés, qui a écrit une lettre où il s'émerveille de ce qu'un homme qui est resté 3 mois dans un endroit aussi pareil, eh bien, puisse se retrouver aussi bien. D'ailleurs, l'évêque a été repris à cause de cette lettre. Mais c'était quand on est avec Dieu. Même au fond d'une prison, même dans des immondices, même dans les pires des choses, il y a quelque chose dans notre cœur que l'on ne peut pas enlever. Il est parlé dans les Actes des apôtres, des apôtres qui étaient ressortis du Sanhédrin joyeux d'avoir subi des outrages pour la gloire de Christ. On les a frappés, mais ils étaient heureux. C'est de notre bonheur chrétien ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ce que vous êtes ou de ce que vous n'êtes pas, mais dépend de Dieu. Plus Dieu est dans votre vie, plus votre bonheur est grand. Et Satan vient toujours vous murmurer, mais si j'avais ça, mais si j'étais là, mais si. Il y a un verset des Proverbes qui dit. Excusez-moi de le dire, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu. C'est les yeux de l'insensé sont à l'autre bout de la terre. Il y a des personnes qui fuient leur malheur et ils font un voyage là-bas. Et puis je connaissais quelqu'un, ils ont fait un croisière dans la Scandinavie, et puis une autre qui était aux Baléares, et puis une autre qui était du côté de l'Afrique. C'était leurs pieds touchaient pas terre, hein. Ils étaient soit dans un avion, soit dans un bateau. Mais ce sont des insensés. Qu'est-ce qu'ils fuient? Ils se fuient eux-mêmes, en fait. Mais ils se transportent avec eux. Alors, ils peuvent pas se séparer de leur malheur. Leur malheur est en eux. Ils peuvent aller où ils veulent. Ils le transportent avec eux. C'est tandis que vous pouvez rester à Paris. Dans votre petit appartement et être parfaitement heureux. Tandis que vous pouvez à l'autre bout de la terre et être malheureux. Parce que vous n'avez pas la paix avec Dieu. Vous êtes en rébellion contre Dieu. Si vous êtes en rébellion, eh bien, vous n'aurez pas ce bonheur dans votre cœur. Il faut que Jésus-Christ soit Seigneur de notre vie, de votre vie. Il dit, l'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand Dieu est près de nous, quand il est constamment avec nous, eh bien c'est merveilleux. Et je peux dire, Et vous réveillez la nuit, il est toujours là, hein. Et vous endormez avec Dieu et vous vous réveillez avec Dieu. Il n'y a pas de temps passé dans l'inconscience du sommeil, mais vous êtes de plein pied dans la présence de Dieu. Ça, c'est une réalité. Dieu est tellement présent que nous soyons réveillés ou endormis, et même dans notre sommeil. Je me rappelle un jour, je dormais, et il y a un rêve mauvais qui est arrivé. Je dis non, je suis chrétien, je ne veux pas rêver à ça. Ça m'a réveillé. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Tu es capable, même en dormant, il y a quelque chose, tu es toujours chrétien. Il y a des choses qui viennent comme ça dans le sommeil et on peut dire non. Et je peux rendre témoignage qu'on peut dire non. Et ces choses-là, elles ne viennent pas. C'est parce que on s'endort avec Dieu, on se réveille avec Dieu et même dans notre sommeil, on est avec Dieu. Et je peux vous dire une chose, même on peut prier en dormant. C'est vous êtes dans le sommeil et vous intercédez pour quelqu'un. Parce que c'était quelque chose qui est tellement lié à vous que vous le faites quand même dans ce que on appelle sommeil et que normalement c'est une inactivité et un ressourcement, excusez-moi le mot, mais on peut prier. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Mais même la nuit, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous les yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Le Seigneur est toujours avec nous. Il veut toujours être avec nous. Mais c'est toujours, il y a une condition, c'est qu'il soit le Seigneur de notre vie. C'est à partir du moment où c'est lui qui a la direction de notre vie, où nous soumettons notre vie, nos activités, nous les plaçons sous son regard, eh bien à ce moment-là, Dieu peut nous utiliser. Et vous êtes une bonne prière à faire le matin, quand vous mettez le pied par terre, même avant. Hein, vous pouvez vous ouvrez les yeux, vous remettez tout entre les mains de Dieu. Et vous dites, Seigneur, dirige cette journée, conduis toutes choses, place sur mon chemin les personnes que je dois aider, les personnes avec qui je dois avoir une relation amicale ou d'encouragement ou je ne sais, que utilise ma vie, elle est entre tes mains, dispose de ma vie. Et puis, je peux vous dire, vous pouvez vous attendre à de belles aventures. Un jour, je parlais avec mes enfants, je dis, vous savez, la vie chrétienne, si vous avez vu les films d'Indiana Jones, c'est rien à côté. Parce que il y a des moments où vous tenez, c'est plus par la lanière de votre fouet au-dessus du vide, mais il n'y a même plus le fouet. Vous êtes là et vous dites, Seigneur, je te fais confiance. Je marche, je regarde vers toi. C'est toi seul qui dirige toutes choses. Tout est dans ta main. Mais il faut avoir mis sa vie entre les mains de Dieu. Il faut que ce soit lui qui soit le souverain. Le Dieu de votre vie. Ce n'est pas un petit copain, c'est Dieu. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. C'est Dieu est mon conseiller. Quand nous avons mis notre vie entre les mains de Dieu, nous recevons les conseils de Dieu. Nous pouvons transmettre les conseils de Dieu. Dieu nous a dit quelque chose et nous le transmettons. Et souvent, vous avez dans votre lecture, vous lisez quelque chose et vous êtes béni. Oh Seigneur, ce verset vraiment, il m'a parlé ce matin. Et vous rencontrez quelqu'un, c'est celui-là. Le verset qu'il vous a donné, vous le transmettez. Vous dites, mais Seigneur, tu savais que je devais parler à cette personne-là et tu m'avais encouragé par cette parole et moi, je peux encourager la personne par cette parole. Et c'est comme cela. Nous avons besoin. Et puis, verset 10 et 11, et le verset 10 surtout, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ce verset vient comme n'est pas s'intègre pas dans le psaume. En fait, c'est une prophétie. Et c'est Pierre qui cite ce verset quand il a la première prédication de l'Église, premier message, première action de l'Église, première conversion. Pierre a cité ce verset au sujet du Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité. Il a dit, il est ressuscité. Et il dit, le patriarche David est mort depuis longtemps et on a son tombeau au milieu de nous. Et donc ce verset ne s'adresse pas à David. Il a écrit sous inspiration et il a fait la preuve que Dieu est son conseiller et qu'il lui a transmis le message qu'il devait transmettre et qui a été transmis et qui finalement a été prêché. Et c'était une prophétie au sujet du Seigneur Jésus-Christ. C'est on n'a pas. Oui. Tu me feras connaître le sentier de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est une répétition de ce qui a été dit un peu plus haut. C'est nécessaire que ça soit répété, même si c'est par une forme différente. Nous avons besoin d'apprendre que Dieu est toujours avec nous, que c'est lui notre bonheur, que c'est lui qui est notre joie parfaite. Nous avons besoin de lui. Il est nécessaire que nous nous tenions dans la présence de Dieu et dans la communion avec Dieu. Mais il y a le chemin de la vie. Dieu nous fera connaître. On a des multitudes de besoins. À un moment ou à un autre, on a besoin d'apprendre quelque chose de Dieu. On a besoin de faire un progrès dans la vie chrétienne. Eh bien, tu me feras connaître le chemin de la vie. Nous sommes arrivés à un point de notre vie chrétienne. Et je vous dis, vous n'êtes pas arrivés au but. Vous avez encore besoin de grandir. Et vous grandirez encore dans votre vie chrétienne. Et je l'espère. Et j'espère de tout mon cœur et de toute ma force. Vous grandirez encore. C'est pour cela qu'il est dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a le sentier de la vie, la marche dans la lumière, la marche dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Et instant après instant, Dieu vous fera connaître. Là où vous êtes aujourd'hui, eh bien, c'est une étape. Demain, c'est une autre. Après-demain, ce sera une autre. Et vous dites, mais comment on y arrive? Un jour après l'autre, un pas à la fois. On grandit. C'est pour cela qu'il est dit, c'est le chemin de la vie. On grandit, on marche. Et celui qui ne marche pas dans un chemin, eh bien pourquoi est-il dans le chemin? Si vous vous mettez dans un chemin, allez-y, avancez. Si vous marchez avec le Seigneur, marchez. Vous êtes dans le chemin. Et le Seigneur a même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous marchez avec Christ dans sa communion, vous marchez avec celui qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité. Il vous conduira, il vous mènera toujours plus loin. C'est les versets 3 et 4. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Nous ne marchons pas seuls. Nous marchons avec d'autres. Mais nous choisissons les autres avec qui nous marchons. Et je vous demande de faire bien attention avec qui vous marchez. Parce qu'il y a des personnes qui vous maintiendront en bas et des personnes qui vous amèneront plus loin. Celles qui vous mèneront, qui vous feront descendre dans votre vie chrétienne. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous marchiez avec elles. C'est qu'un autre les aide, mais pas vous, parce qu'elles vous font descendre. Vous ne les amenez pas plus loin, elles vous amènent en arrière. C'est à d'autres à s'occuper d'elles. Tandis que vous devez vous approcher de ceux qui aiment le Seigneur, qui vivent pour le Seigneur, qui font grandir, qui vous amènent plus loin. Je me rappelle, c'est une triste expérience dans ma vie. J'étais passé pendant des années de très 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 grandes difficultés, d'extrêmes difficultés. Et dans mon cœur, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animosité et de rancune. Et je n'arrivais pas à m'en séparer. Dès qu'on me parlait de cette situation, Et j'en parlais souvent. Hein. Et je disais, oui, ça s'est passé comme ça, et comme ça, et comme ça. J'étais très, très, très dur, très, très, très dur. Et puis, un jour, je me suis retrouvé avec des chrétiens, des frères en Christ, de vrais frères en Christ. J'ai expliqué la situation avec le pasteur, etc. Et le pasteur dit, oui, c'est vrai que c'est une situation difficile, où il y avait de graves problèmes. Et puis, les choses en étaient comme ça. Et puis, bon, on a continué, je continuais avec ces chrétiens dans cette église. Et des années plus tard, peut-être 2 ans plus tard, je me suis dit, mais c'est fini, tu n'as plus de rancune. Tu as oublié tout ça. Et je me suis rendu compte de la puissance de l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant. C'est l'église. Ce n'est pas un rassemblement de quelques personnes qui sont là ce matin. C'est l'église du Dieu vivant. Chacun en particulier, chacun pour sa part. Vous êtes une grâce pour moi. Et je suis une grâce pour vous, j'espère. Nous devons être des instruments dans la main de Dieu pour l'édification les uns les autres. Et souvent, on ne se rend même pas compte comment un sourire, comment l'amitié d'un frère, d'une sœur peut faire du bien, peut nous amener plus loin, peut nous rassurer pour effacer des choses qui, du point de vue humain, ne s'effacent pas. Quand on vous a outragé, quand on a été méchant avec vous, quand on vous a mis plus bas que terre, ça a été pendant une période suffisamment longue, il y a des traces dans votre vie qui sont indélébiles. Vous ne pouvez pas les enlever, ce sont des marques. Et l'Église du Dieu vivant, la présence des frères et sœurs est nécessaire et change ces choses, adoucissent, nous amène plus loin. Et on ne se rend pas toujours compte. Qu'est-ce que nous aurions été sans l'Église du Dieu vivant? Si nous n'avions pas été ensemble les uns et les autres, qu'est-ce que nous aurions fait? Mais même chrétiens, même nés de nouveau, eh bien souvent, on régresse petit à petit. C'est une dérive lente. Tout doucement, tout doucement. Autant on fait des pas, un pas à la fois en avançant, mais on peut faire des petits, tout petits pas. On ne fait pas de grands pas en reculant. Mais c'est tout petit, c'est insidieux. Et vous vous retrouvez très loin un jour, quand vous vous en rendez compte, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'on a négligé l'essentiel. On a négligé la vie. On a négligé la présence des frères et sœurs. On a négligé la communion avec Dieu. On a négligé la prière. On a négligé la louange. On a négligé l'adoration. On a négligé la parole de Dieu, le témoignage. On peut en négliger des choses, vous savez. Je vous exhorte, si vous êtes éloigné, à revenir au Seigneur, à regarder vers lui, à vous attacher à lui. Parfois, il faut prendre du temps et dire, Seigneur, sonde-moi, éclaire-moi, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Conduis-moi sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'éternité. Ouvre mes yeux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, alors je veux le mettre en règle. Je veux être de ton côté, le condamner dans ma vie et le mettre en règle. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je ne veux me laisser aucune occasion, aucune porte de sortie. Je veux marcher dans le chemin que toi, tu m'indiques. Et parfois, c'est difficile, hein? Et puis, je vais vous dire carrément, c'est pas parfois, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Demander pardon à quelqu'un, c'est difficile. Si quelqu'un vous dit que c'est facile, c'est un menteur. Parce que nous sommes des humains et nous n'aimons pas demander pardon. Et si vous trouvez difficile, moi aussi je le trouve difficile, très difficile. Mais il faut le faire. Et s'il faut mettre des choses en règle, restituer des choses qu'il faut restituer, s'il faut, je ne sais pas quoi, eh bien, faites-le. Mais quand vous êtes de nouveau dans la lumière, quand les choses sont mises en règle comme il faut, quand le Seigneur règne dans votre cœur, alors, ça c'est merveilleux. Alors, vous vivez ces versets que l'on a médités ce matin. Mais ne vous laissez pas de repos. Je sais une chose, c'est que Satan vient de vous parler. Et de vous dire, oh, d'accord, mais pas tout de suite, tout de suite. Il vous l'a dit? Moi aussi, il me l'a dit. Mais c'est un menteur. Il veut votre mal. Ne l'écoutez pas. La parole de Dieu nous dit maintenant. Parce que si vous remettez à plus tard, de plus tard en plus tard, vous serez à la fin de votre vie. Et vous direz, je regrette de ne pas avoir fait ce que je devais faire au bon moment. J'ai perdu 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans de ma vie. Et on peut perdre toute sa vie, jour après jour, simplement en remettant à plus tard. C'est Satan qui veut vous conduire dans ce chemin. N'acceptez absolument pas. C'est un menteur. Si vous avez besoin de mettre quelque chose en règle, mettez-le en règle. Et approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Si quelqu'un veut parler avec moi, je suis à sa disposition. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, n'est pas encore né de nouveau ou réconcilié avec Dieu, alors je demande si cette personne veut parler, eh bien, je suis disponible aussi. Voilà, nous allons prier pour terminer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence avec nous. Nous te remercions parce que tu es toujours le Dieu vivant, le Dieu éternel. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons nous approcher de toi. Nous pouvons regarder vers toi et nous attendre à toi. Oh, gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Louange à toi de ce que tu nous acceptes comme tes enfants. Tu nous reçois, Seigneur. Tu ne veux pas nous mettre dehors. Tu veux nous prendre par la main et nous conduire dans le bon chemin. Gloire et louange à toi, notre Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.